Flagrant Soul, cap sur l'âme du groove. You got it. Bonsoir à tous, vous êtes sur Campus Paris, il est 21h, vous écoutez Flagrant Soul, bienvenue dans cette 8e émission de la saison antépénultième, si je ne m'abuse, voilà, avant-dernière.
Exactement.
Avec un crew un peu remanié ce soir, on est en effectif réduit. Mais... Bertrand, toujours là.
Toujours là, toujours fidèle au poste.
Et puis un petit nouveau, mais pas si nouveau que ça, en absence de Simon, Gaëtan prend le micro.
Voilà. Et oui, bonsoir.
Il prend le contrôle, voilà. Simon nous a lâchement abandonné, du coup Gaëtan se sacrifie.
C'est la première fois que vous entendez sa voix.
Ravi de vous rejoindre.
Voilà. Et bah, après, l'équipe change à peine, mais le format pas vraiment. Hein. On commence toujours par notre petit mood du moment. Il est à nouveau très électro, puisque je prépare une nouvelle résidence au vice-versa avec mon collègue de Flagrant Machine. Notez bien la date, hein, ce sera le vendredi 5 juin de 23h30 à 4h30 du matin au vice-versa rue Keller, dans le 11e à Bastille. Voilà. Si vous voulez écouter du bon son électro all night long, vous êtes les bienvenus. Qui de vous deux veut enchaîner sur le mood?
Allez, je me lance. Bah, moi, mon mood du mois de mai, c'est à peu près le même que celui du mois de mars. Je suis toujours sur mon...
Et de février, et de janvier, et non, de 2025.
Toujours sur mon petit nuage après les deux concerts de David Byrne à la scène musicale il y a deux mois. Alors David Byrne, pour le présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ancien guitariste et chanteur du groupe new-yorkais Talking Heads, dont le mythique Psycho Killer est récemment revenu dans le paysage. En solo depuis une trentaine d'années, il a aussi collaboré avec un nombre impressionnant de groupes et d'artistes, Sivery Corporation, De La Soul, Olivia Rodrigo, Hayley Williams, Saint-Vincent, le duo de House Express 2, et j'en passe. Et c'est peut-être là le secret de son inépuisable énergie créative, une curiosité permanente. Aujourd'hui, à 74 ans, mais il est sans doute au sommet de sa forme artistique et physique. On écoute un extrait de son live au dernier festival de Coachella il y a 15 jours, une chanson des Talking Heads, Slippery People. Sur le même principe que sa tournée précédente, il évolue sur scène au milieu d'une troupe de 12 musiciens, choristes et danseurs, tous sans fil, totalement libres de leurs mouvements. Ils sont quatre rien que pour la batterie et les percus. Le résultat, un spectacle hybride entre concert rock, théâtre et danse contemporaine. C'est vivant, joyeux, parfois totalement euphorisant. Je vous en parle aussi ce soir parce que, good news, il revient en Europe faire une large tournée des festivals dès le mois prochain. Et bad news, pas de date en France, mais pour les plus motivés, il suffit d'un aller-retour en Belgique où il sera au Rock Werchter le 5 juillet. Alors dans une période où on a très souvent envie de dire monde de merde, je vous fais une petite ordonnance, courez voir David Byrne en concert, en train, à vélo, comme vous pouvez. Et franchement, ça fait tellement de bien que ça devrait être remboursé par la Sécu.
Et toi Bertrand ?
Eh ben moi mon mood, il est aussi sur un artiste qui fait beaucoup de scènes, sur Prince. Je me suis pas mal replongé dans Prince, avec notamment grâce au hors-série des Un Rock. J'ai lu beaucoup de choses sur lui, j'avais même prévu de faire un petit featuring avec lui, mais finalement je me suis dit non, je vais plutôt le passer dans mon mood board et je vais plutôt passer à un morceau qui me plaît, le Chelsea Rogers de son 23e album studio. A model, used to be a role model. I don't know. Come on, Chelsea. I don't know. Come on. Chelsea Rogers a vraiment existé. C'était un mannequin, créatrice de vêtements, qui a d'ailleurs utilisé le love symbol avec ses initiales CR pour faire un petit pendentif. Et donc, bah, il lui a dédié cette chanson. Ça n'a pas été sa muse, il a eu beaucoup de muses, hein, quand même, Prince. Certaines, il a voulu en faire des chanteuses, pas toujours avec succès d'ailleurs. Et puis d'autres, on peut penser à Madonna, à Janelle Monae plus récemment, avec qui il a réalisé certains titres. Donc ce morceau très funk avec une super ligne de basse, vous l'aurez remarqué, c'est un peu ce que ses fans comme moi attendaient, avaient envie d'entendre en tout cas sur cet album là, un album qui était sorti en 2007 qui s'appelle Planet Earth.
À l'occasion de la sortie le 10 juin prochain de Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg qui revient aux aliens après E.T. et la guerre des mondes, on s'est posé une question simple et d'actualité. Comment accueille-t-on musicalement un extraterrestre en 2026? Alors imaginez, le vaisseau se pose, la porte s'ouvre, et là, premier contact officiel avec l'humanité. Pas de discours, pas de Google Trad, juste un morceau. Le morceau, pour lui, ou leur souhaiter la bienvenue. À moins que vous ne détectiez une petite intention belliqueuse, et dans ce cas-là, le morceau pour le, là, ou les faire fuir. Alors, autrement dit, si vous êtes plutôt Team John Williams... Attendez, excusez-moi. Si vous êtes plutôt Team John Williams avec un petit contact tout en douceur façon rencontre du troisième type.
Je te le fais, moi, John Williams. Hein.
Allez, c'est... vas-y, fais-le. Plutôt Team Les Inconnus version sketch de Be-Human et leur redoutable disque laser de Dorothée contre le méchant Alien. Celui-là, je vous l'épargne, on ne fait pas la démo. Comme souvent dans la vie, selon Flagrant Soul, le spectre est large, donc faites vos jeux, à toi Bertrand. Mais gardez un détail en tête, c'est peut-être le seul truc que les E.T. ramèneront chez eux pour représenter la Terre, donc pas de pression évidemment.
Alors moi j'ai choisi un morceau de Max Cooper qui s'appelle Wave, donc c'est plutôt électro-techno, avec des petits sons. Max Cooper avec ce morceau Wave qui est issu de son deuxième album Émergence sorti en 2016. Max Cooper, alors moi je le connaissais pas, c'est un ami Régis, pour ne pas le citer, qui m'a fait découvrir ça. Il est né en 1980 à Belfast, de parents australiens. et il vit plutôt à Londres. Ce qui est intéressant dans cet artiste, alors ça fait une vingtaine d'années qu'il publie des morceaux de musique à la croisée entre les sciences et la musique, parce que c'est un scientifique à la base. Il est de formation plutôt biologie computationnelle, donc j'imagine qu'il y a un peu d'informatique aussi là-dedans. Il s'est intéressé notamment à la génétique, il est docteur, hein, donc c'est pas rien. Et donc voilà, c'est un artiste qui est aussi très lié à l'art visuel. Si vous avez l'occasion de le voir en concert, pareil que ça vaut le coup, c'est des shows qui durent 2 ou 3 heures sans s'arrêter. Et c'est plutôt immersif et assez sophistiqué, et à cette idée d'enveloppe qui m'a bien plu dans ce morceau, qui vous enveloppe, qui vous met dans une ambiance assez smooth. Et là, vous êtes prêt à rencontrer le ou la extraterrestre, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, finalement. Et puis, bah, c'est la vie, quoi. C'est un peu ça qui m'a plu dans ce morceau.
Avec un côté très rencontre du troisième type, du coup, avec un son un peu synthétique, que tu espères faire le lien avec le ou la alien. C'est Je ne sais pas comment on dit. Et du coup, alors c'est à toi, Gaëtan, toi, tu es plutôt sur quel...
Alors moi, j'enchaîne avec quelque chose d'un peu décalé.
Tu vas pas être sur le même, du tout sur le même créneau.
Non, très très différent. J'ai choisi un morceau de l'acteur américain Robert Mitchum, qui s'appelle « I Learn a Merengue Mama ».
Last night I went to a party and I met Miss Merengue Jenny. She said, oh come here Bobby and dance merengue with me. I said to her, baby I don't know, all I can do is calypso. She said, now come here Bobby and move your body like me.
You want to see Bobby? How we dance with Jenny?
Well, I had 2 sashes to dance the merengue. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama.
Oh, I learn merengue, Jenny. I learn merengue, Bobby. I learn merengue, Jenny. I learn merengue.
You want to see Bobby? How we dance with Jenny?
Well, I had 2 sashes to dance the merengue. Started looking how Bobby and Jenny was dancing. We glide and then we come around. We was really going to town.
You want to see Bobby? How we dance with Jenny?
Well, I had 2 sashes to dance the merengue. I learned a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama. I learn a merengue, mama.
Oh, I learn merengue, Jenny. I learn merengue, Bobby. I learn merengue, Jenny. I learn merengue.
Well, everybody there was watching how we was dancing the merengue. And then we got the real surprise. We was winning the first prize.
You want to see Bobby?
Alors voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce disque un petit peu ovniesque. En 1956, Robert Mitchum, qui vient de camper un pasteur inquiétant dans La Nuit du Chasseur, part tourner 2 films à Trinité et Tobago. Et entre 2 prises, Monsieur Mitchum s'ennuie. Ayant un goût assez prononcé pour l'alcool, il traîne dans les bars du coin et il découvre la musique locale, le calypso. Et il adore ça, au point d'imaginer assez sérieusement d'enregistrer un album. À l'époque, c'est Harry Belafonte qui cartonne avec son titre Day O, immortalisé depuis par Tim Burton dans Beetlejuice. En tout cas, en 1957, le timing est parfait. Robert Mitchum sort son disque Calypso is Like So, avec sa pochette haute en couleur. Je vous la montre là.
Ouais.
Oui, il vous invite à trinquer au rhum avec lui.
Dommage que vous n'ayez pas l'image.
En charmante compagnie d'une dame. Alors évidemment, c'est un peu étrange. Pas parce que Mitchum chante, ça il l'a déjà fait. mais parce qu'on parle quand même d'une icône du film noir qui se met à faire du calypso tropical. Et paradoxalement, ça fonctionne super bien. Un dernier mot sur le choix de ce titre, I Learned Merengue Mama, qui ne veut évidemment pas dire j'apprends à faire des meringues maman, mais qui fait bien sûr référence au merengue, ce style musical et cette danse rapide et joyeuse, née en République dominicaine, où l'accordéon s'est imposé comme l'instrument star du genre. Ça ne nous aura pas échappé que chez Michoum, cette chanson n'a de merengue que le titre. Faute d'accordéon dans son groupe, le ukulélé a bien fait le job. Personnellement, ces petits solos sautillants me donnent juste une envie irrésistible, danser. Alors je me suis dit, pourquoi pas inviter mon alien là-dessus ? D'où qu'il vienne, lui non plus ne pouvait pas résister.
D'accord, une séduction par de la danse années 50.
Voilà.
C'est un choix. C'est un vrai parti pris. Moi, je vais être dans une optique un petit peu différente. On va écouter un classique absolu de la soul. On va écouter As de Stevie Wonder.
And the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Your joy and pain, and I'll be loving you always. As the day I know I'm living but tomorrow could make me the past, for that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, cause I'll be loving you
Là, c'était donc ce gros classique As de Stevie Wonder qui est extrait de son double album à l'époque Songs in the Key of Life. Alors moi, c'est pas tant un morceau que j'ai choisi pour accueillir les extraterrestres, c'est un artiste. Quel meilleur ambassadeur que Stevie Wonder pour accueillir les extraterrestres, parce que en fait, les extraterrestres, s'ils débarquent chez nous, eux débarquent chez nous, mais nous on n'a pas la capacité à aller chez eux, c'est qu'a priori ils sont quand même plus avancés que nous en termes de technologie. Du coup, je me dis, ils doivent avoir aussi des moyens de communication, ils doivent du coup être bien renseignés sur ce qui se passe déjà chez nous avant de venir, et j'imagine que ce qu'ils ont vu à distance, c'est pas forcément extrêmement flatteur. Il doit y avoir des guerres, des famines, on détruit la planète, etc. Donc c'est quand même pas, enfin voilà, c'est comité d'accueil pas facile. Donc je me suis dit que au-delà de ce piètre spectacle qu'on pouvait leur montrer, il fallait quand même un peu leur montrer qu'il y avait ce qu'on avait aussi de meilleur en nous. Et pour moi, ce qu'on a de meilleur en nous, c'est Stevie Wonder, tout simplement.
Wow.
C'est un des derniers musiciens de génie qui peut transmettre ce qu'on a de meilleur en nous en tant qu'être humain. Et j'ai choisi ce morceau parce que ce morceau, en fait, il illustre l'amour inconditionnel. Voilà, enfin, c'est vraiment ça, les paroles, avec ce refrain qui nous emporte, avec les chœurs, etc. Et je m'étais dit, en termes de scénographie, voilà, avant que le vaisseau atterrisse, on fait venir Stevie avec son Rhodes et éventuellement tout un chœur gospel. Et alors là, vraiment, tu vois, un truc qui envoie, et on croise les doigts pour que ça passe bien avec, avec les extraterrestres. Et après, bon, bah, s'ils nous détruisent, bon, et bah voilà, on aura tenté, quoi. Mais non, j'ai plus vu les choses sous cet angle-là, moi, j'avoue. Donc voilà, mais toujours un morceau, en tout cas, qui fait extrêmement plaisir à écouter. Du coup, voilà, c'est l'heure de faire le bilan, l'heure de voter. On a quand même trois choix qui sont extrêmement différents, encore une fois. Qui vote pour quel morceau ? Bertrand, tu ouvres le bal, pour qui votes-tu ?
Alors moi, j'irais bien sur Robert Mitchum, parce que c'est quand même assez inattendu.
Je te remercie. Bah, moi, pour cette belle démonstration, avec force d'argument, Vincent, je vais aller sur Stevie Wonder.
Eh ben écoute, moi je pense que je vais tenter Robert Mitchum aussi, parce que on sait jamais, peut-être qu'ils ont le sens de l'humour. En tout cas, ce sera vraiment le moyen de le savoir très très vite. C'est l'heure de la question improbable, et la question improbable ce soir est: Barry White était-il plus qu'un crooner à l'eau de rose ? Alors, je vous prends un peu à partie. Quand je vous dis Barry White, qu'est-ce que ça vous évoque en premier ? Première chose qui vous vient en tête ?
Série, télé, deux filles qui écoutent tout le temps Barry White.
Ali McBeal, donc.
Ouais, c'est ça.
Voilà, attention, pour les jeunes qui sont nés dans les années 2000, bah, vous n'aurez pas la ref, mais sachez que ça cartonnait à la fin des années 90.
Et moi, je dirais deux mots: amour illimité.
Voilà, mais c'est un parfait lancement, parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Effectivement, alors... Bon, vous qui nous écoutez, peut-être que vous pensez à Barry White, vous pensez sûrement à déjà sa voix plus profonde que la fosse des Mariannes. Vous pensez peut-être aussi à You're the First, the Last, My Everything, ce tube interplanétaire qui a illustré nombre de fontaines à champagne dans des mariages. En tout cas, quand on pense à Barry White, malheureusement, enfin, il faut quand même constater que l'image qui nous vient à l'esprit, elle n'est pas forcément toujours flatteuse. Et à peu de choses près, on le voit souvent comme une sorte de morse permanentée qui promène sa voix caverneuse sur des mélodies disco-soul libidineuses, tout ça pour faire fondre les sous-vêtements de ses auditrices et auditeurs. Voilà, c'est un peu le... Alors tâchons quand même de faire preuve d'un minimum de respect, du respect qui lui est dû, en tout cas, parce qu'on parle quand même d'un des plus gros vendeurs de tous les temps. Il y a plus de 100 millions de disques écoulés dans le monde, hein. C'est quand même énorme. Pourtant, ce dont il faut avoir conscience, c'est que avant sa carrière stratosphérique de chanteur romantique un peu cheesy, Barry White, il a surtout été un compositeur talentueux et un producteur sagace. Et effectivement, en 72, il découvre le groupe féminin Love Unlimited, qu'il façonne à l'image des Supremes et autres stars de la Motown. Et l'année suivante, en 73, il fonde le Love Unlimited Orchestra, d'où l'amour illimité mentionné tout à l'heure par Gaëtan. C'est donc le Love Unlimited Orchestra, un ensemble de 40 musiciens qui l'utilisent d'abord comme backing band de Love Unlimited, avant de composer directement pour l'orchestre lui-même. C'est vraiment avec ces deux formations que Barry White, en fait, va vraiment déployer toute l'étendue de ses talents. Et c'est vrai que je repensais à sa trajectoire artistique, et ça m'en a rappelé une autre, celle d'Isaac Hayes. Alors j'entends déjà hurler les esthètes: quoi, mais comment il peut comparer Barry White à une légende comme Isaac Hayes? Alors essayons pour voir.
Sensualité.
Tessiture abyssale, check. Soul orchestral avec des violons, check. Composition de BO de film, check. Samplé à tour de bras par le hip-hop et le R&B, check. Et là, c'est que ceux sur lesquels on passe rapidement, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres points communs. Donc ça en fait quand même pas mal. Et pourtant, il faut reconnaître que l'un bénéficie d'une aura d'icône de la soul, alors que l'autre est quand même encore un peu affublé d'une image un peu ringarde. D'où ma question improbable du jour: Barry White était-il plus qu'un crooner à l'eau de rose ? Alors comme on l'a vu, Barry White, il avait des qualités de compositeur et de producteur qui ont été occultées par le succès mondial qu'il a rencontré en solo. Et pour prendre la pleine mesure de son talent et de sa polyvalence, j'ai préparé un montage de 6 morceaux qu'il a composés et produits pour Love Unlimited et Love Unlimited Orchestra, les artistes qu'il a découverts. J'ai volontairement choisi des morceaux où il ne chante pas, hein, afin que sa voix de stentor ne vienne pas biaiser votre opinion, et j'ai bien dit biaiser, bande de petits coquins. On commencera par Love Unlimited Orchestra avec Strange Games and Things, on écoutera ensuite le groupe vocal féminin Love Unlimited sur Move Me No Mountain, qui d'ailleurs a été repris par Chaka Khan après, qui était top, et après quatre nouveaux morceaux de Love Unlimited Orchestra, avec d'abord l'énigmatique Midnight Groove. Ensuite, on aura I Wanna Stay, qui a été samplé par Q-Tip pour Vibrant Thing. Ensuite, on aura Satin Soul et sa fantastique intro que Guru et Ronnie Jordan ont utilisé sur un morceau de Jazz Mataz. Et on terminera par le thème Theme from Together Brothers, extrait de la BO éponyme intégralement composée par Barry White. Donc. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous a convaincu sur ses qualités de compositeur et de producteur également.
C'est très, très orchestré, effectivement. On n'a même pas entendu sa voix.
C'est fait exprès.
On est un peu déçus, du coup, mais moi, j'achète tout ça. Moi,
ça garde quand même toujours un petit côté naïf, comme on le disait, et très joyeux. Des fois, c'est toujours à la limite, parfois, du truc un peu... qui peut basculer potentiellement dans le mauvais goût.
La croisière s'amuse.
Ouais, voilà, ça, c'est un peu le worst case scénario. Ouais. Mais dans l'absolu, c'est quand même... pour composer de la soul orchestrale comme ça, il faut quand même avoir un certain niveau. Hein.
J'ai pas pensé tout à l'heure, j'aurais pu dire aussi, ça me faisait penser à un morceau hommage du groupe new-yorkais Fun Loving Criminals qui s'appelle Love Unlimited.
Barry White Saved My Life.
Exactement, et du coup je pensais ça parce que tu dis il y a un côté positif et peut-être aussi c'est un point important.
Alors je ne sais pas s'il a sauvé beaucoup de vies, en tout cas il a contribué à en générer beaucoup grâce à sa bande son. Ça c'est certain.
L'amour.
You love to hear the story again and again.
Here's a little story that must be told.
You love to hear the story again and again.
Ce soir, les histoires flagrantes s'intéressent au featuring. Featuring, alors c'est la collaboration entre deux artistes ou plusieurs artistes. On peut avoir des featuring en étant nombreux. C'est peut-être pas nos choix ce soir, mais ça aurait pu. On a vu une forte augmentation du nombre de featuring depuis les années 80, puisqu'on est passé de 7 featuring en moyenne dans les années 80. Si on regarde le Billboard 100 des États-Unis, aujourd'hui il y en a 33. 33.
Voilà.
Donc 5 fois plus. Alors, est-ce que tu saurais me dire quel est le champion du featuring, Vincent ?
Je sais pas, mais je pense que si un genre musical représenté, ça doit quand même être le hip-hop.
Exact. Et c'est Snoop Dogg qui totalise 583 collaborations créditées.
C'est beau. Non, mais c'est bien, ça va faire un lien avec ce que je passe tout à l'heure, donc c'est parfait.
Et donc, est-ce qu'il y a déjà... Alors, il peut y avoir des featuring qui sont pas crédités. Est-ce qu'on les considère comme étant des featuring ?
Ça, on va voir. Je pense que ça y est un peu spoiler, là.
Et donc, alors, on frise parfois un peu l'overdose ou le manque de cohérence dans la démarche artistique, parce qu'avec tous ces featuring qui s'enchaînent les uns après les autres, on peut parfois douter qu'il y a un réel intérêt artistique, voire peut-être juste une recherche de business et de buzz. Et effectivement, quand on s'associe avec une autre personne, mathématiquement, on a peut-être plus de chances d'être écouté, d'être dans une playlist sur une plateforme, dans plusieurs playlists même, sur plusieurs plateformes. Et ça peut aussi permettre à un artiste méconnu de percer. On voit des artistes connus comme Prince qui ont fait des featuring avec des artistes pour les faire grandir. Et puis parfois c'est l'inverse aussi. Je me suis souvenu que le tube de l'été dernier, Soleil Bleu, du groupe Bleu Soleil, que vous avez déjà tous oublié, et de sa chanteuse Louisa, qui, elle, a percé. Donc c'est pas toujours dans le sens auquel on pourrait le croire, parce que c'était elle qui était venue leur filer un coup de main, et finalement c'est elle qui est devenue connue. Donc ça peut aider aussi à construire des ponts entre deux univers artistiques, les featuring, deux styles de musique, et puis ça peut mener au crossover. Ça peut aussi développer la créativité et l'innovation en associant deux univers, deux styles complètement opposés. Et puis, on peut aussi saluer l'audace, quelque part, de certaines collaborations. Même si ça ne trouve pas forcément son public, si ça ne fait pas forcément du business, y a des gens qui osent aussi des featuring un peu improbables et pas toujours commerciaux. Donc, il n'a pas de frontières, le featuring, mais dans de nombreux cas, il rassemble quand même des artistes qui ont de fortes affinités. Je ne sais pas si c'est un peu ce que tu as choisi ce soir.
Tout à fait, merci pour ce lancement Bertrand. J'ai choisi un titre de David Bowie en featuring avec un ex-Beatles. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas déjà l'histoire, je vous laisse deviner lequel de Beatles. Tendez particulièrement l'oreille sur les chœurs, le morceau s'appelle Fame.
We'll be right back.
Avez-vous trouvé la réponse, messieurs?
Je pense savoir.
Bon,
est-ce qu'il est mort?
C'est un Beatles mort. Il s'agissait bien de John Lennon, donc, avec son petit gimmick fantomatique que je vous ai isolé pour l'occasion. Alors, revenons sur cette histoire. Donc, ça remonte à 1974. Bowie, jusque-là icône du glam rock, est en train d'opérer un virage radical. Il veut enregistrer à Philadelphie, dans les mythiques studios Sigma Sound, chers aux Spinners, à Roy Ayers ou encore Billy Paul.
TSOP, The Sound of Philadelphia.
Il veut enregistrer un album empreint de soul et de musique noire américaine. Problème, les musiciens locaux refusent tous de bosser avec lui. Qu'à cela ne tienne, il monte son propre groupe. Et quel groupe? Pour ne citer que David Sanborn au saxo, Luther Vandross au chœur. Et surtout un musicien qui deviendra un collaborateur essentiel pour la suite de sa carrière, le guitariste portoricain formé chez James Brown, Carlos Alomar. Début 75, Bowie est à New York pour finaliser le mixage de son disque. Et là, il retrouve John Lennon, qu'il a rencontré quelques mois plus tôt lors d'une fête à Los Angeles. Il l'invite au studio Electric Lady, car il vient d'enregistrer une reprise de Across the Universe des Beatles, et il souhaite lui faire écouter. À cette occasion, il papote pas mal. Lennon l'encourage notamment à se débarrasser de son manager toxique de l'époque. Et pendant ce temps-là, Carlos Alomar est en train de faire tourner en boucle un riff de guitare, à l'origine prévu pour une reprise du morceau Foot Stompin' de The Flares. Mais Bowie trouve ce riff trop bon pour être gâché pour une simple reprise, et il aimerait en faire autre chose. Comme souvent, les meilleures idées naissent un peu par accident. La légende raconte que Lennon s'empare alors d'une guitare acoustique, rentre en cabine et se met à jouer par-dessus et à fredonner un mot sur ce riff qui ressemblerait comme à quelque chose comme que Bowie transforme en Fame, et d'un coup le morceau est né. Il écrira les paroles dès le lendemain, inspiré par un long échange avec Lennon où ils réglaient leurs comptes avec la célébrité, les entourages envahissants et ce vide un peu étrange qui accompagne le succès. Un titre assez acerbe donc. Lennon répète ce Fame en falsetto, presque comme un mantra ironique, qui apporte une énergie décisive. Il ajoutera également l'idée de l'intro, qui revient au milieu de la chanson, avec cette montée de piano jouée à l'envers, qu'il aurait, dit-il à l'époque, emprunté à Stevie Wonder. La boucle est bouclée avec l'émission. Musicalement, Fame, c'est un mélange assez inédit en son temps de funk, de rock, avec des influences qui rappellent James Brown ou Kool & The Gang. Finalement crédité Bowie, Alomar, Lennon, Bowie décide à la dernière minute d'ajouter Fame à son album Young Americans, ainsi que sa reprise des Beatles, deux titres qui n'étaient pas du tout prévus et qui vont complètement changer la physionomie du disque et surtout la carrière de Bowie aux États-Unis, car il décrochera grâce à Fame son premier numéro 1 au Billboard en août 1975. Arrangé donc dans la catégorie featuring tout aussi discret qu'indispensable. Et petite revanche de l'histoire, à la fin de cette même année, James Brown sort un morceau dont le riff est sans équivoque le même que celui de Fame, sans créditer qui que ce soit. Carlos Alomar est furieux, Bowie lui relativise et lui aurait simplement dit « Attends de voir ce que ça donne dans les charts » et finalement le procès n'aura pas lieu. Je laisse le mot de la fin à David Bowie qui déclara en interview au journaliste Jérôme Soligny. Il arrive que la présence d'une personne en studio influe sur ce qu'on est en train d'y faire, et même si sa contribution n'est pas exclusivement musicale. C'est ce qui s'est passé avec John sur Fame. Il était là, et s'il n'avait pas été, le morceau n'aurait sûrement jamais existé.
Sympa de sa part, sachant qu'à l'époque, John Lennon ne produisait pas énormément de son côté. Il était plutôt en longues vacances.
Tout à fait.
Voilà. Et alors moi, je vais amener les choses vers un univers un peu différent. On va écouter Warren G, le morceau Regulate, avec un featuring de Nate Dogg.
Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
Regulators! Mount up!
It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone.
Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search know what's up with 213.
So I hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck.
Since these girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix.
I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren 12. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next?
They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down.
They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town.
If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate.
16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of hoes over there on the curb.
Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G.
Just like I thought, they were in the same spot. In need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them names was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel.
Alors peut-on se faire une place au panthéon de la musique quand on est plus reconnu pour ses featuring que pour ses propres morceaux, hein? C'est tout le paradoxe de la carrière de Nate Dogg. Alors il est né à Long Beach, en Californie, c'est le cousin de Snoop Dogg. Il a commencé comme pas mal de gens à chanter à l'église baptiste où son père était pasteur. Et après son passage au lycée, un bref passage à l'armée, il fonde donc un groupe de rap avec le rappeur Warren G et Snoop Dogg. Donc son cousin. La démo de 213 ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein, puisque Dr. Dre, le demi-frère de Warren G, invite Nate Dogg en studio pour collaborer à son légendaire album The Chronic, qui a quand même été un album qui a défini le son West Coast à partir de 92. Et ce featuring, c'est le premier d'une longue liste qui jalonneront la carrière de Nate Dogg et qui contribueront à définir un genre musical, le G-Funk. En gros, dans les années 90, hein, quand un rappeur de la côte ouest a besoin d'un frein, il sait à qui faire appel. Avec sa voix profonde, son chant plein de rondeur et ses paroles plus ou moins menaçantes, Nate Dogg apporte une touche de gangsta soul qui ouvre les portes de la sacro-sainte diffusion FM. Parmi ceux qui bénéficieront de ses talents de mercenaires du refrain, hein, Dr. Dre donc, hein, Snoop Dogg, Warren G, 50 Cent, Fabolous, Ludacris, Eminem, Mark Ronson, Mos Def et j'en passe. Ces faits d'armes lui vaudront le surnom honorifique de King of Hooks, le roi des refrains. Alors Regulate, hein, ce tube que tout le monde connaît ou presque, c'est le morceau référence pour définir ce qu'est une collaboration de Nate Dogg, avec ce sens de la mélodie, ce storytelling hors pair et puis cette présence imposante de crooner gangster. Nate Dogg, il sortira bien quelques albums solo hein, entre 97 et 2003, mais malgré leur qualité, il n'atteindra jamais le même niveau de succès commercial et critique que pour ses nombreux refrains pour d'autres artistes. Sachez que sur les 18 morceaux où il figure en tant qu'interprète et 18 morceaux qui ont été classés au Billboard Hot 100, seulement deux sont des morceaux qui étaient des morceaux solo de Nate Dogg. Les 16 autres, c'était des morceaux où il était en featuring sur le refrain, d'où le fameux surnom King of Hooks.
Eh bien, moi, je suis parti sur un autre type de featuring, donc avec le collectif canadien qui s'appelle Brand Van 3000, et un featuring donc avec Curtis Mayfield. La chanson s'appelle Astuned. Je suis parti sur le featuring presque post-mortem. On pourrait dire que c'est la dernière chanson sur laquelle Curtis Mayfield sera crédité de son vivant. Donc c'était avec le collectif de musiciens canadiens, comme je vous le disais, Brand Van 3000, qui est né au milieu des années 90. Et ce morceau, c'est sur leur album Discosis, qui est sorti en 2001. Et c'est vrai qu'à cette époque, les années 90-2000, c'était l'effervescence à Montréal. Il y avait pas mal de groupes qui se montaient, des collectifs d'artistes C'est un collectif qui vient de l'art urbain et qui était emmené par James Di Salvio. Et donc c'est lui qui avait rencontré Curtis Mayfield en 99, avant qu'il meure, quelques mois avant. Et puis bah, à l'origine, l'objectif c'était de le faire chanter, mais il était plus capable de chanter à cette époque. Malheureusement, il était malade et il est mort quelques mois après, mais il a donné l'autorisation d'aller piocher, il a donné l'autorisation au groupe d'aller piocher dans les pistes de ses archives, des enregistrements du tube que vous connaissez sûrement, Move On Up, qui datait des années 80. Donc voilà, c'était bon, ça fait la boucle avec Prince, j'étais très chanteur mort ce soir.
Ceci dit, avec une émission où on parle souvent de soul, on est plutôt amené à faire des chanteurs morts.
C'est clair.
C'est quand même un peu la question de qu'est-ce qu'est un featuring en fait. C'est intéressant, parce que en fait ton exemple moi m'a fait penser à Eric Sermon qui avait utilisé des bandmasters de Marvin Gaye.
J'ai hésité avec
sur le morceau Music, et donc ouais. Avec un son un peu hip-hop derrière, etc. C'était un mélange des genres qui était intéressant, mais qui a beaucoup choqué les puristes aussi, quelque part. Donc, est-ce que l'utilisation de Bandmaster post-mortem, c'est un featuring ou pas? On vous laisse avec ça.
Bah, ça peut être, si c'est voulu et si c'est décidé, ça peut se...
Oui, alors mais effectivement, là, ils avaient l'accord.
Ils avaient l'accord, ouais, effectivement.
C'est fini pour ce soir. On se retrouve samedi 30
mai. Samedi 30 mai à 21h.
21h avec Simon de retour normalement. Merci Gaëtan d'avoir géré en son absence.
Avec grand plaisir.
J'espère que tu as pris du plaisir à passer un peu de son. Et nous, on en a pris à en écouter en tout cas. Et
merci.
De toute façon, on vous souhaite une bonne suite d'écoute des programmes de Campus Paris. Et on vous dit à la fin du mois pour l'avant-dernière émission de la saison et encore un beau programme à venir.